franceinter.fr.
Comment corriger la flore intestinale des bébés nés par césarienne? C'est une question nouvelle à la une de la science aujourd'hui.
Lors de l'accouchement, le bébé entre en contact avec différentes bactéries de la flore vaginale et fécale de sa mère. En ingérant ces substances, le tube digestif du bébé se nourrit et s'enrichit des bactéries de sa mère, notamment de celles nécessaires à la constitution de ses défenses naturelles.
Voilà, et plusieurs études avaient déjà montré que les enfants nés par césarienne n'héritaient pas de la même immunité que ceux nés par voie basse. Une étude d'un genre nouveau, publiée aujourd'hui dans la revue Nature, tente cette fois de corriger artificiellement cette lacune. Bonjour Karine Clément.
Bonjour.
Vous êtes professeure de nutrition à l'université Pierre et Marie Curie, spécialiste du microbiote. Alors, quelle a été l'idée de ces chercheurs new-yorkais pour corriger la flore intestinale des bébés nés par césarienne, dans le cas où celle-ci, évidemment, était défaillante?
Alors, effectivement, c'était basé sur le fait que des études précédentes avaient montré des différences dans la flore intestinale, on dit le microbiote, d'enfants nés par césarienne et nés par voie basse. En fait, quand on est par césarienne, on a une flore qui ressemble plus à celle de la peau. Alors que quand on est par voie basse, et ben en fait, on a des germes qui ressemblent plus à la flore vaginale de la mère. Et donc l'idée, c'était de prendre des enfants qui étaient nés par voie de césarienne et de les remettre en contact en fait avec la flore vaginale de leur mère et de regarder durant un mois l'évolution en fait du microbiote.
Et comment ils ont procédé pour cela ?
Alors en fait c'est relativement simple quand on discute avec les collègues obstétriciens. En fait on prend un petit écouvillon dans la région périnéale et vaginale de la maman et en fait on donne à l'enfant, on le remet en contact avec l'écouvillon. En fait comme l'enfant a un réflexe de succion, on va le mettre en contact au niveau de la bouche, du visage et aussi du reste du corps avec ce petit bout de coton quoi si vous voulez.
Mmh. Est-ce que le but in fine est de protéger l'enfant de certaines pathologies?
Alors l'idée en fait c'est basé sur des études déjà quand même depuis quelques années qui est de comparer en fait des enfants qui sont nés par césarienne et puis par voie naturelle et de les suivre sur plusieurs années. En fait, ce qui est connu, alors c'est toujours difficile dans ces études de suivi parce que bien sûr on fait des associations et donc on voit que effectivement quand on est par voie de césarienne, on a plus de risques de certaines pathologies comme l'asthme, certaines allergies ou bien l'obésité. Donc en fait, l'idée est également venue que un des facteurs qui pourrait expliquer ces relations serait effectivement une flore initiale qui est différente en fait chez les enfants nés par césarienne et nés par voie basse.
Karine Clément, les travaux ont été menés sur 13 enfants. C'est important de dire un mot de la méthodologie, dont 3 seulement ont bénéficié justement de ces bandelettes microbiennes issues de leur maman. C'est un nombre suffisant pour conclure quoi que ce soit sur le sujet?
C'est effectivement un nombre relativement faible, et d'ailleurs les auteurs le reconnaissent eux-mêmes. Donc c'est en fait 18 enfants. Et donc le nombre de ceux qui ont reçu en fait la flore, c'est effectivement 4 ont été mis en contact avec la flore vaginale de leur mère. Quand on regarde attentivement effectivement la publication, on voit bien qu'il y a clairement des flores qui changent, et notamment ceux qui ont reçu la flore de leur mère, et bien en fait ils vont ressembler plus aux enfants qui sont nés naturellement par voie basse. Mais on voit aussi qu'il y a une très grande variation. Or, les nombres sont petits. Et donc, il y a plusieurs questions qui se posent. C'est bien sûr le nombre. C'est pas suffisant pour avoir des conclusions définitives. Et puis le temps, parce qu'en fait, ils ont été suivis durant un mois. C'est quand même relativement court. Et donc la question, c'est de savoir à plus long terme, est-ce que ces enfants vont aussi garder en fait ces changements?
Et d'ailleurs, oui, est-ce qu'on a des éléments pour répondre à la question de est-ce que ce microbiote évolue en grandissant? Est-ce qu'il se corrige en quelque sorte?
Alors, bah c'est bien ça la question. Ce qu'on sait, c'est qu'à la naissance, effectivement, on va avoir un équipement initial qui est différent, comme on l'a dit, entre la naissance par césarienne et puis la naissance par voie basse. Puis en fait, quand même, on rattrape un petit peu au cours de la vie. Et on dit qu'on acquiert vers 3-4 ans, en fait, on a acquis à peu près un microbiote, une flore intestinale un peu mature. Donc il y a des discussions actuellement sur le fait qu'effectivement on pourrait quand même rattraper en fait ce microbiote. Mais ce qui est intéressant ici, c'est vraiment ce qui se passe les premiers jours de vie. La question qui se pose, c'est est-ce que c'est vraiment important en fait de remettre en contact effectivement avec la flore de la maman. Et donc ça nécessite, comme on peut bien l'imaginer, des études vraiment de suivi long terme, y compris de ces enfants, pour vraiment faire la démonstration que c'est utile.
Si jamais ces études aboutissent, vous pensez qu'il faudra modifier le protocole des césariennes
Alors, en discutant avec nos collègues, là, ici à la Pitié-Salpêtrière, effectivement, hein, quand on discute avec les gynéco-obstétriciens, là, effectivement, la question se pose. Hein, s'il y a vraiment une démonstration scientifique suffisante que c'est utile. Hein. Mais vous imaginez bien que pour avoir cette preuve, il faut vraiment suivre les enfants longtemps.
Et justement, c'est une pratique qui pourrait être mise en place rapidement dans les hôpitaux français, par exemple?
Alors, on peut pas le décider comme ça sans effectivement avoir fait les études et notamment des études de suivi à plus long terme. Ici à la Pitié, avec nos collègues, en fait, on va démarrer une étude de ce type qui est effectivement avec un promoteur qui est l'INSERM, dans lequel on va suivre en fait 225 enfants qui vont être effectivement mis en contact ou pas avec la flore vaginale. Et cette étude va durer plus d'un an, donc on verra bien effectivement comment ça se passe. Une des questions, c'est vraiment, au bout d'un an, est-ce que finalement les enfants auront finalement gagné plus rapidement en fait une flore plus mature?
Pierre-Henri Gouillon voulait intervenir, je crois.
Oui, pourquoi pas aussi essayer la flore intestinale tant qu'à faire?
Alors, oui, bon, en fait, effectivement, il y a beaucoup de discussions aujourd'hui sur la mise en contact et notamment par le transfert de la flore intestinale. Ici, l'idée, c'est quand même de reproduire ce qui se passe lorsqu'on est mis en contact avec la filière, ce qu'on appelle la filière maternelle, hein, lors de la naissance.
Ça arrive.
Donc,
aussi,
effectivement, une grande partie, c'est quand même la flore vaginale, mais il y a aussi un petit peu de bien sûr, de contact avec le microbiote intestinal. Mais enfin, je pense que vous faites allusion également aux enjeux aujourd'hui de ce qu'on appelle le transfert fécal. Mmh. Effectivement, dans certaines pathologies, notamment infectieuses, où ça a l'air d'être assez efficace. Ouais.
Merci beaucoup Karine Clément pour cet éclairage extrêmement intéressant. On voit l'importance de toute façon de ce microbiote à la naissance. Je rappelle que vous êtes professeur à l'université Pierre et Marie Curie. Merci beaucoup à vous d'être passé dans le club aujourd'hui.
Je vous en prie.
Bonne journée.
Merci
beaucoup Axel. On se retrouve demain pour la une de la science. Allez, en bref, dans le reste de l'actualité, toujours dans le domaine du microbiote, d'ailleurs attention aux déodorants et aux antitranspirants. Dans une étude parue aujourd'hui, des chercheurs de Caroline du Nord montrent que leur usage quotidien perturbe fortement la population bactérienne de notre peau en supprimant un grand nombre des bactéries responsables des mauvaises odeurs. Ces produits détruisent également celles qui nous protègent naturellement contre les infections. Selon les auteurs, notre coévolution millénaire avec ces micro-organismes est incompatible avec notre façon d'envisager l'hygiène. C'est donc à méditer. Si notre cerveau est plissé, c'est parce qu'il n'a pas la place de grandir librement dans la boîte crânienne. Les circonvolutions de notre cerveau, qui commencent à apparaître dès la 20e semaine de gestation et se terminent vers l'âge d'un an et demi, sont spécifiques à l'homme et à certains primates. Et grâce à une maquette de cerveau faite d'un gel expansif, des chercheurs français et finlandais ont réussi pour la première fois à reproduire parfaitement les formes bien particulières que prend un cerveau humain en grandissant. Grâce à cette démonstration maligne et efficace, ils mettent fin à un vieux débat de 40 ans sur l'origine de ces replis. Et puis pour terminer, huîtres et plastiques ne font pas bon ménage. Des chercheurs bretons viennent de démontrer que la présence de microplastiques dans l'océan perturbe fortement les capacités reproductrices des huîtres. Ces particules plastiques font en effet la même taille que le phytoplancton dont elles se nourrissent. Et les chercheurs montrent qu'après 2 mois d'exposition, les mollusques produisent moins d'ovules et de plus petite taille. De même, leurs spermatozoïdes sont nettement moins mobiles. Les huîtres placées dans les bassins les plus pollués ont vu leur taux de fécondité chuter de 41%.